C'est bon, on y va? Ok. Le casque. Ok.
Les amis, est-ce qu'on peut y aller?
Ouais.
Ok, d'accord.
La bambinzicale.
La musicale, la
bambinzicale. La bambinzicale.
La unique chose qui nous sauve.
La musique
bambinzicale.
La musicale.
La bambinzicale.
La musicale.
La bambinzicale.
Notre
avenir en est
là. La bambinzicale.
Musicale.
La musicale.
La bambin zicale.
La musique.
Avec bambin. Salut vous! Bonjour toi! Bienvenue sur Radio PK! Une fois de plus, t'as podcasté à la bonne adresse et c'est Bimbin qui te propose sa deuxième Bimbin zicale. Aujourd'hui, je t'emmène loin, on va tout au sud du continent, on part découvrir la musique folklorique argentine. On va prendre un taxico pour Saint-Georges, une pirogue pour traverser l'Oyapock, puis embarquer dans tout plein de bus pour traverser le Brésil du nord au sud. Première étape, Iguaçu et la triple frontière Brésil-Argentine-Paraguay, illustrée en intro par le Concerto de Fronteras, le Concerto des Frontières, du guitariste Yamandu Costa.
Radio PK.
C'est ici que ça se passe.
on va évidemment s'arrêter une journée pour regarder les impressionnantes chutes avant ou après avoir passé la frontière pour entrer en Argentine. On arrive donc dans la province des Misiones, en référence aux missions jésuites appelées dans le secteur au XVIe siècle pour évangéliser les autochtones. Les autochtones de cette région, c'était les Indiens Guarani qui ne se sont pas laissés faire par les colons, et les colons ont donc fini par juger la situation ingérable à cause des conflits permanents, et l'Espagne a fini par faire intervenir les jésuites pour les évangéliser. Avec une méthode en apparence plus pacifique, les Indiens étaient réunis par village dans ce qu'on appelle une réduction, autour de deux moines jésuites, catholiques donc, qui s'intégraient complètement à la vie du village. Ils apprenaient la langue et les coutumes, tout en enseignant aux Indiens leur langue, l'espagnol, et évidemment leur religion catholique. Il n'y avait donc pas de fusil ou de rapport de force, et les Indiens restaient libres, ce qui leur permettait notamment de continuer à pratiquer leurs rituels chamaniques. Les jésuites ont donc entendu la musique sacrée des Guarani, et l'une des réductions, celle de Yapeyú, a vu la construction d'une école de musique en 1691 où le père Antonio Sepp enseignait la musique et le chant, mais aussi la fabrication d'instruments de musique, autant européens que Guarani. Évidemment, les instruments comme les musiques se sont vite modifiés sous l'influence les uns des autres, et c'est par exemple comme ça qu'est née la harpe paraguayenne. Elle est née du mélange des harpes Guarani et européennes de l'époque. Alors dans ce milieu, les Indiens ont commencé à ne plus voir la musique que comme quelque chose de sacré, et ont commencé à lui donner aussi un usage récréatif. Comme la musique n'était plus uniquement chamanique et utilitaire, destinée à des objectifs, les codes étaient plus si importants, et donc ont pu être mis de côté, et au rythme binaire qui était utilisé jusque-là, s'est ajoutée la mesure ternaire en 6-8, et on a vu par exemple dans cette région se former le chamamé. C'était Kilometro 11, Kilometre 11, ou PK 11 si on veut. Un hymne du chamamé composé par Transito Cocomarola et qui était joué là par le trio de harpe du paraguayen Juan Allendré. Donc avant la colonisation, ce qui est maintenant l'Argentine était occupé par plusieurs peuples amérindiens, et si les colons qui arrivaient par bateau ont rapidement rencontré les Guaranis qui se trouvaient sur le littoral, il y a eu d'autres ethnies qui ont eu un peu plus de répit. C'est le cas par exemple des Selknam ou des Ona, O-N-A-S, qui vivaient à l'extrême sud du continent en terre de feu, ce qui leur a permis, par cette situation géographique, de rester relativement ignorés de la colonisation, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas la Ruta 3, la route nationale 3, qui relie Buenos Aires à Ushuaia, quelques 3079 km plus au sud, et donc il fallait encore traverser à cette époque, à cheval, les immenses plaines de Patagonie, et il restait aussi à traverser le détroit de Magellan. Les Selknam sont donc restés tranquilles jusqu'aux années 1880, quand les Européens étaient bien installés et qu'ils ont commencé à s'intéresser à ces plaines patagones pour l'élevage du bétail. Les Indiens sont donc devenus gênants puisqu'ils continuaient de venir chasser là où maintenant il y avait des propriétés, et les estancieros, les propriétaires des estancias, ces immenses fermes argentines, payer des tueurs à gages pour éliminer les Indiens. Méthode efficace, puisqu'il n'en restait plus que 500, une vingtaine d'années plus tard, sur les 4000 estimés en 1880. Les quelques survivants, qui étaient principalement des femmes, étaient déportés dans des réserves, notamment sur l'île Dawson, qui avait été cédée aux missionnaires salésiens venus d'Italie pour éduquer les Indiens restants, un peu comme les jésuites avec les Guaranis. Le génocide a été reconnu par les gouvernements argentins et chiliens en 2003, un peu tard, puisque les derniers Selknam sont décédés dans les années 1980 à 2000. Parmi eux, parmi les derniers Selknam, on garde une trace audio de Lola Kiebja, connue comme la dernière Selknam, la Ultima Selknam, car elle était la dernière à connaître de façon directe les chants chamaniques de son peuple. Elle a pu être enregistrée 2 ans avant de mourir, en 64. Elle est morte en 66, elle a été enregistrée en 64 par Anne Chapman, qui est une ethnologue spécialiste des populations aborigènes d'Amérique du Sud. C'était des chants chamaniques, des extraits de chants chamaniques Selknam, le peuple Selknam donc qui vivait en terre de feu. Et c'était Lola Kiebja, qui est connue comme la Ultima Selknam, la dernière des Selknam. C'était Lola Kiebja qui a été enregistrée en 1964. Voilà donc les colons installés, ils envahissent le continent et chassent les Indiens de leurs terres pour y mettre du bétail. Les fermes sont absolument gigantesques et les estancieros embauchent pour pas cher les Indiens qui préfèrent ça que d'être déportés ou même d'être tués. On les occupe donc à différentes tâches, notamment au gardiennage des troupeaux, eux qui connaissent bien la région et qui sont habitués au climat. Ils passent donc leur temps seuls à cheval, à parcourir les immenses plaines de la Pampa, et c'est ce mode de vie solitaire qui va caractériser plus tard le gaucho. Le gaucho, il est en général fort, il est bourru puisqu'il passe sa vie seul, il est très bon cavalier, il est expert dans le maniement du lasso, il est habillé d'une chemise et d'un pantalon bouffant qu'on appelle la bombacha, son poncho pour le protéger du vent, un chapeau à bord large pour le protéger du soleil, il porte à ses pieds des bottes en cuir et à sa ceinture son grand couteau, le facon. Il se montre pas beaucoup en ville car il n'y est pas bien vu, les citadins aiment pas trop les vagabonds. Le soir, seul dans la pampa ou de retour à l'estancia, le gaucho se livre à l'art de la cifra, l'improvisation de textes qui raconte en général des anecdotes de sa journée ou de sa vie et qu'il ponctue à la guitare. Et quand deux gauchos se croisent, s'ils se battent pas au couteau, ils vont s'affronter dans une pajada, un duel de cifra, où chacun improvise un couplet qu'il termine par une question à laquelle son adversaire doit répondre de la même façon. La pajada peut durer toute la nuit, on dit même que certaines ont duré plusieurs jours, jusqu'à ce que l'un des deux ne réponde pas assez vite.
Voy andando arriando mis propios sueños. Yo soy un cantor sureño como lo están observando. No tengo cómo ni cuándo, mi tiempo es justito el de hoy. Ni me niego ni me doy, ni hay pago que me sujete, porque el destino es mi flete y él sabrá bien dónde voy. No me gusta el hablar mucho, más bien prefiero el silencio. En su poncho me aquerencio y sus consejos escucho. Mesmo que brasa de pucho no pretendo ser lucero. Me envuelvo en mi propio cuero y con su calor me alcanza para emplumar esperanzas de cantor y guitarrero. Pulso este instrumento, me siento más argentino. Se me aclaran los caminos y se agranda el firmamento. Hago un lazo con el viento hasta el azul estirado. Le tiro un pial de volcao a la primer golondrina, mientras mi canto ilumina el suelo donde me crié. Es mi flete, no me preocupa el mañana. La vida todo lo hermana y lo encarrila en su brete. Tirar en contra es al cuete por más que se ponga empeño. Solo son libres los sueños como la lluvia y el viento y el vibrar del instrumento de todo cantor sureño.
Radio Péka. C'est ici que ça se passe.
Et ouais, c'est ici que ça se passe avec Alberto Merlo, pour le prononcer à la française. Alberto Merlo, donc, qui nous chantait Con el destino por flete, qui est une cifra, la cifra, donc l'art musical oral verbal du gaucho. Si le gaucho se rencontre peu en ville à Buenos Aires, il s'en rapproche quand même, puisqu'il travaille évidemment aussi dans les estancias de la province de Buenos Aires. Et donc notre gaucho va entendre les boléros qui viennent d'Europe et qui se jouent à cette époque-là en ville. Et il va en donner les couleurs à sa cifra, qui va se structurer un peu, les paroles vont se régulariser en vers de 8 pieds, et la guitare ne va plus seulement ponctuer les paroles, mais va devenir une vraie rythmique. On est fin 19e et on assiste donc à la naissance de la milonga pampeana, la milonga de la campagne, ce style qui va disparaître très vite, puisque dès 1900, on l'entend plus parce qu'il va se mélanger à d'autres influences présentes à Buenos Aires, et notamment au candombe africain pour donner le tango, qui lui va cartonner. Le tango n'est pas considéré par les Argentins comme du folklore, il n'est d'ailleurs pas une musique argentine, mais seulement une musique porteigne, une musique de Buenos Aires. Comme par exemple la murga, qu'on connaît beaucoup moins chez nous, qui est la musique typique du carnaval de Buenos Aires. Mais donc on parle du tango, puisque par son succès, il va ensuite redonner un second souffle à la milonga, sous un nouveau genre, la milonga ciudadana, la milonga citadine, la milonga de la ville, qui est toujours très mélancolique, mais souvent source de très très belles pièces, notamment pour guitare. C'était une milonga qui n'a pas vraiment de titre, elle s'appelle simplement Milonga, de Jorge Cardoso, qui est un guitariste. Il a donc composé cette milonga pour guitare seule, puis l'a arrangé lui-même pour deux guitares, et donc il le jouait ici en duo avec Leszek Potasinski. Voilà, c'était donc la milonga de Jorge Cardoso. Voilà, et donc là on arrive avec le tango et la milonga ciudadana à des musiques qui sont pas vraiment considérées comme du folklore argentin, encore que la milonga quand même rentre dans le cadre. Mais on va donc ressortir de la milonga, pour le coup, qui est aussi le nom de la salle de danse où se joue le tango, et on va même sortir de la ville de Buenos Aires pour aller se trouver une petite peña, un petit bal populaire, où on va retrouver le vrai folklore argentin. Radio PK. Alors nous, dans les peñas, on va avoir du mal, parce qu'on connaît pas bien les subtilités, on va avoir du mal à différencier les genres musicaux, qui sont souvent très proches, autant dans le rythme que dans l'harmonie et dans les airs. Rythmiquement, on retrouve très souvent un mélange de binaire et de ternaire, une superposition des deux découpes de la mesure avec des mélodies qui passent d'une mesure à 3 temps binaire, une mesure en 3-4, à une mesure à 2 temps ternaire, une mesure en 6-8. Cette association, cette superposition des deux découpages de la mesure, elle est marquée par l'instrument de percussion typique de la musique folklorique argentine, le bombo leguero. Le bombo, c'est le tambour incontournable dans un groupe de folklore argentin. Dans le temps, les gauchos s'en servaient pour délimiter les parcelles pour le bétail, puisqu'il s'en servait pour mesurer les distances. En le frappant fort, on l'entend dans la pampa jusqu'à 3 ou 4 km, ce qui correspond à une légua, d'où le nom de bombo leguero, le bombo qu'on entend jusqu'à une légua. C'est un assez gros tambour, qui se joue debout porté en bandoulière ou assis posé devant soi. Le fût est fait d'une seule pièce de bois prise dans un tronc, avec une peau de mouton ou de chèvre à chaque bout qui donne un son très chaud et très grave. Les cerclages sont en bois et sont très très hauts, et le bombista, celui qui joue le bombo, le tambouien, va aussi jouer dessus sur ces cercles. Le rythme de base de ces styles folkloriques, à la fois binaire et ternaire superposés, ça donne ça. On marque donc deux temps ternaires sur le cercle. 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3. Et en même temps, trois temps binaires sur la peau. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, en accentuant fortement le troisième temps du bombo. 3, 1, 2, 3, 3. Voilà, ça c'est le rythme de base auquel on ajoute en général des repiques, des petits bourdons pour l'agrémenter un petit peu. Et jouer avec le reste de la musique, ça donne par exemple une chacarera.
Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo y en el cerro colorado. Argo mi coplas al viento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de fruto como plantita y mistol. Cuando ensillo mi caballo me largo por las arenas y en la mitad del camino ya me he olvidado de las penas. Caminiaga Santa Elena, el churqui rayo corta. No hay pago como mi pago, vivo al cerro colorado. A la sombra de un hostal y he sentido de un repente a una moza que decía, sosiegue que ahí viene gente. dar un remedio que muy bueno para las penas. Racita de iguana macho mezcladita con hierba buena. Chacarera de las piedras, criollita como ninguna. No te metas en los montes si no ha salido la luna. Caminiaga, Santa Elena, el churqui rayo cortado. Ay, pago como mi pago, viva el Cerro Colorado.
C'était Mercedes Sosa, chanteuse et bombista, qui chantait la Chacarera de las Piedras, la Chacarera des pierres, des cailloux, une chacarera donc d'Atahualpa Yupanqui. Atahualpa Yupanqui, c'est le monsieur du folklore argentin. S'il y a qu'un nom à retenir de cette émission, c'est le sien, Atahualpa Yupanqui. On lui doit un répertoire énorme de chansons et de pièces pour guitare. Pour les hispanophones, si vous écoutez ses paroles, ça vous donnera une bonne idée de la vie dans les campagnes argentines. La chacarera, donc, tient son nom du chacarero, celui qui travaille à la chacra, la maison de campagne, puisque la chacarera vient des campagnes du nord-ouest argentin. C'est une danse, souvenez-vous qu'on est dans un bal, c'est une danse de groupe qui se danse en couple, ou une danse de couple qui se danse en groupe, je sais pas trop bien. Une ligne de femmes face à une ligne d'hommes, l'intro est fixe, elle est pas dansée, et tout le monde donne les palmas, tout le monde frappe dans les mains sur les troisième et premier temps. Un des musiciens annonce « adentro », en dedans, pour lancer la première partie et donc la danse. Les pas sont codifiés, on voit des rapprochements, des éloignements, des giros, des vueltas, des semi-vueltas, plein de choses, plein de pas différents. Et notamment, on voit une séquence que font à la fin de chaque partie, que font les hommes seulement, qui s'appelle le zapateo. Zapatos, en espagnol, c'est les chaussures, et zapatear, c'est le fait de jouer des pieds, de taper du pied. Et donc le zapateo, ça ressemble un peu aux claquettes, et ça ressemble un petit peu au pas que font les hommes dans le caseco guyanais. À la fin de la première partie, donc après le zapateo, la place des hommes et des femmes se trouve échangée. On recommence donc tout au début, l'intro sert d'interlude, on frappe dans les mains, et au signal adentro, commence la seconde partie, à la fin de laquelle tout le monde a retrouvé sa place. La musique peut être chantée ou instrumentale, et si la structure reste à peu près identique, les longueurs des parties peuvent varier, ce qui donne différents types de chacarera, la chacarera simple, la doble, la larga ou la tronca par exemple. Et je pense que c'est un peu pour ça qu'on entend souvent un musicien annoncer certains passages, pas que dans la chacarera, mais dans d'autres musiques folkloriques aussi. On annonce par exemple adentro pour signifier l'entrée dans la danse, le début d'une partie. On entend aussi souvent l'annonce des parties, la première, la deuxième, ou la fin du morceau. On entend des fois avant la toute dernière partie, s'acaba nomás, qui signifie que ça se termine. On joue souvent la chacarera au violon, à l'accordéon ou au bandoneon, accompagné à la guitare qui claque les temps avec le bombo. Ce duo guitare-bombo, on le trouve à coup sûr dans les groupes de folklore, mais il n'a pas toujours été présent en Argentine, puisque la guitare a été amenée par les Espagnols au XVIe donc, et que le bombo n'est devenu l'eguero qu'après la colonisation. Avant ça, on trouvait des bombos nativos, le tambour natif, qui a été modifié sur le modèle des tambours des conquistadors pour devenir le bombo leguero. On trouvait aussi un autre tambour qui s'appelle beaucoup plus petit, qui s'appelle la caja vidarera. La caja, c'est la caisse, et on l'a dit vidarera puisqu'elle accompagne la vidala en français, prononcée à la française, la vidala donc qui est chantée dans le nord-ouest argentin. C'est une musique lente, à trois temps, chantée notamment au carnaval dans la région de Tucumán, sans autre accompagnement que donc cette caja vidalera.
Vidalita. sabe hablar.
C'était Tei de Olvidar, une vidala composée par Andrés Chazarreta, qui est un personnage important pour le folklore argentin puisqu'il est le premier à avoir répertorié les différentes musiques folkloriques et à les avoir diffusées dans tout le pays, puisqu'à l'époque, à la fin du 19e, chaque genre était propre à une région. Et lui, il a formé en 1906 un ensemble des arts natifs qui regroupait une trentaine de musiciens et danseurs et qui se produisait d'abord dans le nord-ouest du pays, puis qu'a donné en 1921 la première représentation de musique folklorique argentine à caractère national, c'était à Buenos Aires. L'interprétation de cette vidala était de Mariana Carrizo, qui s'accompagnait à la caja, et elle était suivie très discrètement par l'accordéon du Chango Spasiuk. Alors comme normalement la vidala se chante sans instrument mélodique, et que c'est très très beau, on va s'en réécouter une, cette fois en conditions réelles, en chœur de carnaval et dans la rue. C'était Aina Ranjal, une autre vidala, donc. Celle-là en conditions réelles, c'était un vrai chœur de citoyens, de gens qui chantaient en chœur dans la rue pour le carnaval, dans la région de Tucumán, donc. On a entendu la caja vidalera, ce petit tambour qui se tient à la main, de fabrication assez simple, avec aussi deux pots, comme le bombo, et sur lequel on trouve parfois un timbre qui est fait d'une ficelle tendue devant la peau et qui tient une brindille qui va vibrer donc avec la peau. C'est le même système qu'on retrouve sur le sampula des Kalinya en Guyane. C'est donc un des instruments anciens qui a subsisté puisque beaucoup ont disparu. D'autres instruments sont restés et font partie de la musique folklorique comme par exemple le charango, cette petite guitare à 5 cordes doublées et dont la caisse était faite dans une carapace de tatou. Aujourd'hui, les tatous sont protégés et les charangos sont faits en bois, mais le son reste caractéristique des musiques andines comme la cueca, le bailecito, le huayno, qu'on prononce huayno en Bolivie, ou le carnavalito qui lui ressemble beaucoup. On écoute d'ailleurs Luis Salamanca qui nous parle de cette ressemblance entre le huayno et le carnavalito.
Le carnavalito,
como lo dice, comme son nom l'indique, dans les carnavals, c'est le rythme qui remplit toutes les fêtes. Dès le début, à l'exhumation, dans les maisons, au moment des invitations, c'est le rythme le plus important. Dans le nord, le carnavalito a pris une caractéristique du huayno, qui est de jouer le huayno beaucoup plus vite, et des fois encore plus vite. Par exemple, quand le carnavalito touche à sa fin et qu'on danse, il arrive comme une exaltation avec la boisson et tout. Alors on se regarde comme ça, et le chef dit « Apura, apura, accours, plus vite !» Et ça, on y va. Par lentement, ça pourrait être comme une introduction du carnavalito. On commence à chanter, on y va. Ça serait comme une intro.
Quebradeño a mí me dicen porque nací en la quebrada, carnavalito de mi querer, toda la rueda venga a bailar. Quebradeño a mí me dicen porque nací en la quebrada, carnavalito de mi querer, toda la rueda venga a bailar.
C'était Quebradeño, un carnavalito des frères Abalos, chanté d'abord par Milena Salamanca pour illustrer le propos de son papa, Luis, et que j'ai subtilement mixé avec une version des frères Abalos eux-mêmes. Ce carnavalito, Quebradeño, c'est encore un gros classicos du genre qui raconte le quotidien du Quebradeño, celui qui vit dans la Quebrada. On parle ici de la Quebrada de Humahuaca, la faille de Humahuaca, qui se trouve dans la province de Jujuy, tout au nord-ouest du pays, dans la cordillère. Et cette faille, c'est une sorte de merveille géologique avec des montagnes absolument fabuleuses de couleurs, d'où le nom d'une de ces montagnes, la Paleta del Pintor, la palette du peintre. Le carnavalito, vous l'avez entendu, c'est pas joué sur le même rythme que la chacarera, c'est pas une superposition de trois temps binaires sur deux temps ternaires, c'est une musique qu'on écrirait en binaire, en 2-4, mais qui se joue à mi-chemin un peu entre le binaire et le ternaire en anticipant un tout petit peu la deuxième croche, ce qui fait un truc un peu bancal comme dans certaines cumbias ou dans la musique gnawa du Sahara.
pour faire de la radio, on utilise des ondes électromagnétiques.
Non, 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 ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21.
Vous êtes bien sur Radio PK, la radio des PK.
On a donc pu entendre le charango, et la flûte qu'on a entendue avec, c'était aussi un très très vieil instrument andin qui daterait de plus de 2000 ans, c'était la quena. Des instruments anciens ou récents, il y en a encore quelques-uns dans le folklore argentin, des styles musicaux aussi, je vous ai pas parlé de l'escondido, du triunfo, du gâteau, de la samba, avec un Z, la samba. Si vous voulez en savoir plus sur toutes ces musiques d'Argentine, il existe une série de documentaires que vous trouverez facilement sur un diffuseur de vidéos bien connu sur internet. Chaque genre musical, pardon, est présenté dans un épisode d'environ une demi-heure à peu près. La série s'appelle Pequeños Universos, les petits univers. On va parler rapidement quand même d'un dernier genre, un incontournable de la musique argentine, le slow de la peña, la samba avec un Z donc. La samba, ça se danse en couple, chacun prend dans sa main son pañuelo, son foulard qui reste en poche pendant les autres danses, et les deux partenaires vont se tourner autour sans jamais se toucher et en agitant donc leur foulard. La musique est plutôt lente, mais pas toujours, il y a même des sambas assez dynamiques, sur un rythme mélangé binaire-ternaire, comme pour la chacarera, mais dont les accents du bombo sont différents, et le style donne lieu encore à de très très belles chansons. On écoute Nostalgias Tucumanas, une samba d'Atahualpa Yupanqui.
Thank you.
C'était donc Nostalgias Tucumanas, une samba d'Atahualpa Yupanqui, jouée par Jaime Torres, un des grands représentants du charango argentin, et Ariel Ramirez au piano. On continue et on va se quitter avec ce même Ariel Ramirez, qui est aussi compositeur et à qui on doit entre autres œuvres la Misa Criolla, la messe créole. Alors il faut savoir que le créole en Argentine, c'est pas le descendant métis des esclaves noirs venus d'Afrique et des colons blancs comme en Guyane. Le créole argentin, c'est le descendant blanc des colons qui est né sur le sol argentin. C'est plus ce qu'on appelle aux Antilles le béqué. Alors, je sais pas trop dans quel contexte a été écrite cette messe créole. Certains disent qu'elle aurait été demandée à Ramirez par l'église pour rendre la messe plus attractive en y jouant des rythmes qui parlent plus à la population argentine. Et donc c'est une messe chrétienne, mais qui fait intervenir différents rythmes et instruments folkloriques. On va donc clôturer cette deuxième bimbinzicale avec le Gloria de la Misa Criolla, introduit au charango, puis à l'orgue d'église, avant l'entrée du chœur. Le chœur donc qui entre sur un rythme que je vous laisse identifier, qu'on a déjà entendu dans cette émission. Je ne vous retrouverai pas après, donc je vous embrasse bien fort dès maintenant. Je vous souhaite plein de bonheur à l'écoute de Radio PK et qui sait, peut-être à bientôt pour une troisième bimbinzicale. Allez, ciao!
tú que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas los pecados del mundo, atiende nuestra súplica, tú que reinas con el Padre, en piedad de nosotros.
De nosotros.
Radio PK.
C'est ici que ça se passe.
Les amis, est-ce qu'on peut y aller?
Ouais.
Ok, d'accord.
La bambanzicale.
La musicale, la
bambanzicale.
La bambanzicale.
La musique bambanzicale.
La musicale.
La bambanzicale.
La musicale.
La bambanzicale.
Musicale.
Notre avenir en est
la bambanzicale.
Musicale.
La musicale.
La bambanzicale.
La musicale.
Avec bambin.